Sous-marin, vieux truc, alors de loin, et je me et va-t'en savoir pourquoi. J'introduis la demande pour pouvoir faire. Je me dis comment je peux faire pour rentrer dans les sous-marins nucléaires en plus. J'introduis une demande par la photo. Puis je me dis, il faut que je rencontre, je demande. Puis je me dis, c'est une pas une obsession, c'est un truc qui me tient, j'y vais. Donc un an avant, je demande une autorisation pour faire des photos. Puis je demande à un journal de me couvrir pour donner une raison devant l'amirauté pour le faire. Et c'est tombé pile au moment, là aussi, chance qu'on saisit, où il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de conscrits, il n'y a que de la professionnelle. Et dans les sous-marins, on ne peut pas dire qu'ils se disputent pour aller dedans, sauf les gens de ma sorte ou les officiers qui adorent ça, etc. C'est une psychologie bien particulière, quand même, la psychologie du sous-marin. Et puis le fantasme que ça véhicule et tout. Donc, rencontre avec l'amiral des forces nucléaires de l'époque, Thierry Verbonneau, qui est très très ouvert et qui me rencontre, qui me dit bah, tiens, venez, on se rencontre à Vincennes, vraiment comme dans un roman policier, au fond d'un bistrot. Lui, l'air de rien, moi, pas plus. Et lui, et première question de ma part, j'ai dit bon, qu'est-ce que vous savez sur moi? Lui, on sait tout sur vous. Parce que bien sûr, là, les renseignements généraux, tous les services, forcément, le gars, s'il rentre, c'est pas n'importe quoi. En plus, journaliste qui a traîné en Irak, en Iran, enfin, dans des pays diaboliques, à une époque, donc on est, c'était il y a 15 ans ou 20 ans, avant que l'Iran commence à faire le bazar. Mais moi, j'ai suivi pendant 7 ans Khomeini. Y a du renseignement dans tout ça, bien sûr. Donc, le gars dit, on sait tout sur vous. Apparemment, vous avez très bonne réputation. Et en plus, vous avez bien fait de m'envoyer un livre que vous avez fait sur les marins pêcheurs. Là, apparemment, vous êtes resté 7 ans. Vous avez eu à tenir dans les groupes. Lui, ça, c'est vrai que c'était une de mes particularités. Je suis assez bon là-dedans. Mais par contre, je lui dis, moi, je ne suis pas bien sûr que ce soit bien intéressant, vos sous-marins. Parce que j'ai été formé par une école très spéciale aux sous-marins. Ça s'appelle Hollywood. Alors, je ne suis pas sûr que ça soit tout à fait la même chose. Il me dit comment ça? Et il se marre, bien sûr. Il me dit c'est vrai que c'est pas forcément. Et il me dit ce qu'on peut faire, c'est faire un test. Déjà, vous partez à Djibouti, ou non, c'était d'ailleurs sur un autre coup, je me souviens plus le pays, en Indonésie, je crois. Et vous rejoignez tel sous-marin, et puis on va voir ce que vous faites dedans, comment l'équipage vous ressent, comment vous les ressentez, et puis vous allez faire vos repérages. Il avait tout pigé. Et un deuxième voyage encore comme ça. Alors là, à Djibouti. Et puis je remonte en sous-marin jusqu'à la Méditerranée, via le canal de Suez et tout. Tout ça en photo. Et effectivement, l'équipage, je dois dire, tout à mon avis, assez impressionné par le fait que j'avance, je moufte pas, je me fonds totalement dans le fourbi. Mais entre l'appareil photo et la caméra, c'est pas pareil. Et après, j'ai fait le synopsis, j'en ai parlé à Arte, j'avais déjà avec Thierry Garrel, qui était complètement dedans, il avait déjà aidé au précédent film, à deux d'entre eux, et on a attaqué le film, et on m'a demandé à ce moment-là de faire à Thierry, là on a peut-être eu tort, on me dit, ça serait bien que tu fasses un feuilleton. Sauf que là, par inexpérience, j'ai pas compris que les feuilletons, c'est redoutable à faire. C'est-à-dire, si vous faites 5 fois 26 minutes, ça veut dire que chaque feuilleton doit être autonome et que ce que vous injectez dans une des parties du feuilleton, ça ne polluera pas la cinquième partie, par exemple. Le petit truc qui peut dynamiter le film quelque part n'a pas d'effet. Il faut, à chaque partie de feuilleton, il faut un début et une fin. Ça veut dire une petite dramaturgie propre à chacun. Merci le montage, là. Et la préparation, c'est-à-dire que là, il faut commencer à raconter. Plus les problèmes réellement d'intégration dans une équipe et tout, et plus le fait, c'était la première fois mondialement qu'un type du privé s'intégrait pendant 4-5 mois dans une équipe de sous-marins nucléaires, en plus en truc secret défense. La totale, quoi. Et c'était un prototype total pour eux, pour l'armée. Et les officiers eux-mêmes paumés, se disant qu'est-ce qu'on peut lui montrer, pas lui montrer. Heureusement, j'ai eu deux, trois, quatre officiers supérieurs et quelques officiers dessous, vraiment forts et bien dans leurs bottes, qui ont dit, bon, attendez, c'est pas clair, c'est pas simple, c'est pas compliqué. Il fait tout ce qu'il veut, ou presque. C'est-à-dire, je savais les limites. Alors, il y a l'auto censure, bien sûr, qui joue. Il y a la censure directe française, puis il y a les choses aussi logiques. Je veux dire, je suis français, c'est peut-être pas la peine de montrer tous les systèmes de verrouillage de l'arme atomique ou. Enfin, ça, c'est pas le cas du moteur, des trucs de ce genre-là.
Et tu es seul, là.
Je suis, non, je suis parti avec mon beau-fils, qui est lui-même, Michael Lheureux, qui est lui-même un fantastique cadreur, caméraman et réalisateur du même type de cinéma de réel que je fais. J'ai demandé ensuite, normalement c'est au début c'était seul, j'ai dit non, stop, je suis en train de me rendre compte que vous officiez, c'est pas que je vais m'emmerder, mais ils vont rien comprendre à ce que je fais, et pendant 4 mois je vais me retrouver tout seul devant moi-même, fort de l'expérience de Marcel aussi, en disant si je suis seul, je suis fichu, quoi. Et l'autre comprenait très bien ce que j'allais faire, il a eu la gentillesse d'accepter d'être l'ingénieur du son, et dans un sous-marin aussi confiné, 100 mètres, que... toute petite chose avec 80 personnes, c'est redoutable. C'est-à-dire qu'il faut pointer la perche là, au-dessus. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut comprendre exactement comment je vais déclencher, comment je vais attaquer une séquence. Et elle n'est pas prévue du tout. Tout d'un coup, ça peut être sur n'importe quoi. Et lui, il le sentait très bien aussi. Et il a fait des efforts fantastiques pour arriver à toujours être dans la perfection du son. Et le son est redoutable. Il est formidable, le son. Et il faut savoir qu'il y a une soufflerie dans un sous-marin, qu'il a fallu calmer tout ça, qu'il n'y a pas de lumière, qu'on a trouvé des tas de systèmes pour se débrouiller. Et puis, ça me rendait confiance. Moi, j'étais extrêmement nerveux en démarrant ce film. C'était compliqué, quand même.
Mais lui aussi a subi des tests comme toi. Ils lui ont fait faire
non.
déjà des petits...
Non, non, lui, hop, les RG ont dû repérer. Si... D'ailleurs, il y avait des amis de Fécamp qui étaient venus sur le sous-marin. Ils ont eu la surprise de voir que le gendarme qui était à la retraite à côté leur disait « Mais comment ça se fait qu'on vient vous voir, vous ?» Il y a tous les RG qui me demandent des renseignements sur vous, sur les amis qui venaient. Sur mon épouse, enfin voilà, là c'est la totale hein, dans ce cas-là. Oui, Michael, il a été bien sûr observé, mais il n'y a pas eu de test. D'ailleurs, sur les marins, sur les sous-mariniers, il n'y a pas de test. Les gars s'estiment eux-mêmes au fur et à mesure des exercices.
Je suppose qu'il y a quand même des tests physiques.
Sur l'exudation du corps, sur les bactéries et choses comme ça, oui.
Non, mais aussi sur l'état de santé.
Non, au mental, rien. Globalement, bien sûr, comme dans tous les métiers, à la limite.
Mais non, sauf que là, c'est plus grave, parce que si tu es au fond et que tu dois partir trois semaines et que tu as une péritonite...
Justement, ça a foutu la carrière d'un commandant en l'air. Il avait des cailloux dans les reins, donc susceptibles d'avoir des coliques néphrétiques. Il a pas pu continuer son boulot. C'est quand même des gars qui sont pilotés sur 20 ans d'apprentissage, quand même, pour ça, 10 ans. Ça fait drôle, quand même. Mais ils sont très peu, ils sont 10, 15. Mais se faire caler pour une histoire de rien, quoi. Ça doit faire très mal dans la tête, là, faut rebondir.
Oui, je ne sais pas si dans l'extrait on va voir, mais il y a des plans qui sont faits en infrarouge ou je ne sais pas quoi. Il y a des plans qui sont en noir et blanc. Oui. Je ne sais pas comment tu les as faits. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, ça, c'est la réponse à ce qu'on disait tout à l'heure. On ne va pas s'emmerder avec la technique. La caméra, c'est une toute petite chose de rien, amateur, sur laquelle il y a au moins les sensors infrarouges. Ce qui fait que quand les gars travaillent dans l'habitacle central, là, le contrôle, la détection et tout, on ne va pas mettre des lumières. Donc je les prends réellement vraiment dans le vrai. Si eux, ils doivent voir sur des écrans pour détecter certains sons qu'on voit sur les tableaux, etc., un écho d'un hypothétique sous-marin ou d'un voilier ou d'un bateau qui passe, etc., il faut ça se traduit parfois par 2-3 pixels. Tout petit point de rien du tout. C'est pas le moment de leur foutre l'éclairage. Et je vais pas m'amuser à leur faire tourner la scène en fiction. Alors là, c'est foutu. Eux, ils ont trop l'habitude. Ils ont trop vu les télévisions nationales venir. Et il y a un scénario à l'avance et tout. D'ailleurs, ils me l'ont collé dans la tête. Ils me disent, mais pourquoi on fait pas ça et ça? J'ai dit, attendez, oh, on n'est pas en fiction, les gars, là. Il y a eu des disparités là, à ce moment-là. Donc l'infrarouge a été très important. Et en même temps, aussi, ça correspond très très bien à l'esthétique dont j'avais envie. C'est-à-dire, on revenait au sous-marin noir et blanc, quoi. Et ça donne quelque chose qui a trait avec les films de science-fiction que j'avais, avec le côté Jules Verne et le fantasme un peu du sous-marin, et ça collait à une réalité nécessaire, mais vraiment nécessaire d'être dans le son. Eux-mêmes étaient touchés, puis d'ailleurs, et au début, j'ai négocié un peu avec Arte en disant, il y aura du noir et blanc. Bon, Thierry a dit, il n'y a aucun problème, d'autres ont dit, ah oui, mais... Puis en fait, on a dit oui parce que c'était la justification. Ça justifie vraiment à fond.
Quoi. Bien sûr. Et quand tu es en couleur, est-ce que des fois tu apportes une source de lumière ?
Alors, dans le truc, on a mis 2 petites loupiottes de rien juste pour ajouter, pour avoir un demi-diaf de plus. Mais qui ne se sent pas du tout. Et on ne le mettait pas toujours. À la fin, on ne le mettait plus. Par contre, on s'est battu comme des chiens pour avoir un périscope en couleur. C'est-à-dire, ils ont des caméras dans leur. Il fallait que je puisse câbler ma caméra numérique. Qui est une petite Panasonic de rien du tout, c'est un bidouillou de rien du tout. Il n'y avait pas de viseur d'ailleurs dessus, puisqu'il n'y avait que ce foutu machin là où on ne voit rien. Et j'avais collé le premier viseur d'une Sony dessus, que j'avais fait bidouiller par un gars par un bricoleur, enfin un bricoleur professionnel pour la télévision. Et qu'est-ce que je voulais dire que l'éclairage d'appoint, pouvait être nécessaire, là, justement. Je pense que j'ai perdu un peu le fil. Là, de... Oui, la couleur dans le périscope, voilà. Alors, la couleur dans le périscope, c'était vachement important, mais il jalousait le fait qu'il n'y avait qu'une. D'ailleurs, des caméras qui coûtent 10 fois trop cher pour ce que c'est, ce qu'ils mettent dans leur périscope. Et il n'y en avait qu'un qui était en couleur. Et j'ai dit, ça va m'être extrêmement nécessaire. Il y a un plan très important dans le film qui a été fait avec ça. Puis après, alors il y a eu un compromis, mais il a fallu que je... pied à pied pour cette histoire de caméra qui était intégrée dans le périscope, qui leur sert à eux, d'ailleurs. Mais au bout de la moitié de leur mission, on avait négocié le fait qu'on repassait avec une caméra noire et blanc complètement pourrie. Et en fait, là aussi, partie de ping-pong, en fait, les plans finaux du film qui sont en noir et blanc complètement décharnés, qui font penser à un film qui a été fait dans les années 60, qui s'appelle Le Dernier Rivage, sont de cette tenue et correspondaient assez bien à l'esthétique que je voulais. Ce qui fait que on s'empare de la réalité, on la transforme, et il y a un plan en couleur. C'est la première fois où on voit le sous-marin qui plonge et qui s'enfonce. Et j'étais le premier spectateur là au périscope. J'étais comme à l'âge de 9 ans, là, à l'époque où je me mettais sous lit en faisant le commandant, comme si j'étais dans un sous-marin. Et je me dis, nom de Dieu, putain que c'est bien. Et sous l'eau, on voit encore le truc. Bon, donc je poursuis avec une séquence. Et quelques semaines ou un ou deux mois après, sur d'autres plans, etc., je vois ce foutu truc en noir et blanc. Je dis, mais c'est vachement beau aussi, ça. Donc, et ça a servi. Il y a des tas de plans que je n'ai pas utilisés parce qu'il faut la dramaturgie du film et tout, mais qu'est-ce que c'est bien le périscope pour voir, pour faire des films. On devrait tous faire à la caméra au périscope.
Bon, peut-être on voit l'extrait, ouais. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film.
Nous venons de passer le détroit de Gibraltar. Depuis peu, le navire et l'équipage sont au point. À bord, plus d'exercice, la vie reprend son rythme normal. Nous faisons route vers l'Écosse, vers le port de Faslane. La remontée de l'Atlantique doit durer 2 semaines. 2 semaines en plongée, sans faire surface. Les hommes ont l'expérience de ces longues traversées. Ils savent comment rester vigilants malgré la répétition des tâches quotidiennes. L'escale en Écosse est la seule promesse d'évasion. Dans un sous-marin nucléaire, pas de corps à corps avec la machine. Les sous-mariniers sont des veilleurs, plus ingénieurs qu'ouvriers. Ils surveillent le réacteur nucléaire, ils observent, calculent et inspectent sans relâche le navire.
Qu'on fait actuellement ici, on fait un métier entre guillemets banal. C'est l'endroit qui n'est pas banal, mais sinon le métier qu'on fait, c'est banal.
Oui, c'est le nucléaire, c'est quand même pas banal.
C'est pas banal.
Après tu vois, chacun prend son cas, mais quand on a une chauffe nucléaire, c'est pas banal.
C'est sûr.
C'est routinier, c'est pas pareil.
C'est routinier, oui, je suis d'accord, c'est routinier, pas banal.
Non mais, il y a cette routine de faire un boulot qui est pas banal.
Le phénomène qu'on va voir, c'est pas routinier non plus.
Non mais c'est ça, tu fais tous les jours, donc toi-même tu peux te dire c'est facile, je veux dire je fais tous les jours. Et finalement quand tu analyses, t'as quand même la responsabilité d'une chaufferie quoi.
Il y a des fois un message difficile à faire passer, c'est que tu dis t'aspect. Alors au début, qu'est-ce que je disais? Alors je suis électricien, tu dis bah voilà je suis électricien d'un sous-marin.
Ah ouais, c'est super.
T'as le bide comblé. Hein. T'as un bide comblé, alors total quoi. Ouais, après tu commences, tu dis qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors tu dis bah, moi je suis sous-marinier. Alors là le mec, déjà sous-marinier c'est mots que j'entends pas souvent, alors sous-marin. Alors, là, et là dessus, là, tu pars dans un... Ouais non mais ouais, tu pars dans une visu. Et le mec dessus il décolle, hein. Il pense plus du tout au boulot d'électricien. Ouais. Et après à bord, tu peux peut-être finir par lui dire tu changes les ampoules, mais il s'en fout, il est déjà sur une planète.
Ah, c'est une ampoule le sous-marin. Parce
que si t'as fait l'inverse, t'es mort. Alors pour draguer, c'est pas génial.
Ce qui m'est pas le plus, c'est de me dire qu'on fait toujours les mêmes pas, les mêmes évitements aux mêmes endroits parce que c'est étroit, etc. Et tu fais toujours.
Ça use.
Toujours pareil. Je trouve ça dingue. Et que après, quand t'as appris à rentrer dans ta niche, donc tu rentres de la même façon tout le temps, tu fais toujours les mêmes gestes, et à la limite, à un moment donné, tu t'en contentes. C'est-à-dire que tu t'en chiffonnes pas,
si
quoi.
Si tu changes, tu te plantes et tu te fais très mal.
C'est quoi?
T'as pas le choix. Si tu changes, tu te plantes et tu te fais très mal.
Par contre, t'arrives à marquer les gens quand tu leur dis. Ben voilà, imagine, là, t'as eu le collègue, là, tu veux me dire que c'était un gros casseau, si t'aimes pas voir. Et ben là, il va falloir que tu manges avec lui, tu prennes ta douche, bon, pas avec lui, mais tu vas le croiser quasiment à poil, tu vas aller chez derrière lui, pisser, enfin, mais tout en même temps. Quoi. Et le matin, quand tu vas travailler la gueule comme ça, ben, il sera en face de toi. Avec ça.
Moi, ce que j'ai montré, c'est la banette. En fait, ouais, je leur ai montré, donc je tire le rideau, je montre la hauteur de la banette, et je leur dis voilà, là, c'est on va dire le cercle sacré où tu peux être tranquille. Hein. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu peux être tranquille, mais où tu peux pas lire, parce que c'est quand même pas bien grand. Où tu peux pas faire grand chose, mais c'est le cocon où tu peux te recentrer, te dire bon, là je fais une pause.
C'est de manger. Ouais, une place, il y en a une, il en reste une.
Non,
bon appétit d'ailleurs.
Allez, je passe. Tu peux pas.
Non, je peux pas.
Non, pas tout.
Je reviens.
On en revient bien, ouais.
Ça y est, là,
ça suffit, juste pour ceux qui bossent.
Arrête.
Mais c'est quand je l'ai vu
Pardon messieurs,
parce qu'il est parti la dernière
étape. Chaque homme de l'équipage vit dans un peu plus d'un mètre carré. Ils n'ont passé aucun test psychologique particulier. Quelques jours de navigation permettent de savoir très vite qui est capable de maîtriser son agressivité, de supporter l'enfermement, la promiscuité. Bon an, mal an, tout le monde doit se supporter. Il n'y a pas d'autre alternative.
Ouais, bah, sérieux là.
Ouais, c'est ça, ouais. Sérieux là, allez. Allez.
On ne fonctionne que grâce à cette discipline. Donc elle est acceptée. Je veux dire, elle n'est pas remise en cause. Elle est absolument indispensable.
Oui. Et puis elle n'est quand même pas très prégnante dans
elle n'est pas coercitive. C'est-à-dire, c'est pas la discipline bête et méchante. T'es pas là, je te punis parce que t'as pas fait ce que je t'ai dit. C'est caricatural. Non, elle est acceptée. Je veux dire.
Pour le sous-marin, c'est comme ça.
Bah, pour le sous-marin, pour toute organisation.
Ça fonctionne comme ça parce qu'il n'y a pas de soupape. Il n'y a pas de soupape de surpression. c'est pas une machine à vapeur avec une soupape qui est simplement sur un bateau de surface d'aller s'aérer, fumer une cigarette à l'extérieur, regarder un coucher de soleil. Il n'y a pas cette soupape là, et donc il faut que la pression de la discipline soit moins forte, pour que les gens aient moins besoin d'un seul coup de casser une surpression. Il n'y a pas ça.
Donc on est posé, on est à 60 mètres, 80 mètres, on a eu une voie d'eau, on a en temps de guerre par exemple, et puis on a été attaqué, on se pose, voilà, on est bloqué, 60 mètres. Alors là, il y a un problème qui se pose, les gens vont se mettre chacun à côté, et là on est en survie. Donc sur le bateau, il a été créé deux zones de survie, de refuge, une à l'avant, une à l'arrière. En gros, 72 bonhommes à l'avant et 6 à l'arrière. Tout ça, ça crée 7 jours d'autonomie, 7 jours de survie, 7 jours pour qu'on vienne nous chercher. Donc le bateau, il est posé, plus aucune usine n'est en fonction, et ça commence à cailler. On va être 70 à l'avant, on va évacuer donc, de la merde, il faut dire ce qu'il y a, donc ça va puer, ça va être humide, ça peut être froid, on va avoir l'attente, il va y avoir l'écoute à l'extérieur pour savoir si quelqu'un vient. Donc, on a 7 jours.
Bah moi, dans ma tête, je me vois pas 7 jours en tranche D sans essayer d'avoir une activité pour oublier, quoi.
Alors, là, le problème,
je deviens fou, là, franchement, je te le dis, quoi.
N'importe comment, le mieux, c'est effectivement de refaire sortir tes émotions. C'est-à-dire t'occuper l'esprit. Donc, tu peux très bien prendre un calepin et puis marquer ce qui te passe par l'esprit.
C'est ce qui est arrivé sur le
Kursk. C'est ce qui est arrivé sur le Kursk. Un décompte de la vie. Des bilans de vie, je t'aime, je te reverrai pas, etc., qui ont été assez poignants, quoi.
Il y a l'aspect humain où chacun va mettre un peu... Alors, tous les calepins vont être différents, j'imagine, en fonction de l'émotion, de la façon dont la personne réalise réellement ce qui se passe ou pas, parce qu'il y en a qui seront plus anciens que d'autres, qui vont comprendre que c'est fini avant d'autres.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ces journées où tu survis, ou peut-être tu vas mourir, c'est des journées qui ne sont pas, on va dire, inutiles. Donc il ne faut pas partir d'emblée en disant « je vais crever, ça ne sert à rien, je ne fais plus rien, je ne bouge plus, je suis déjà mort ». Non, il faut continuer à vivre. Et ça, c'est important, continuer à vivre parce que ça te servira ou ça servira aux autres.
Oui, on voit bien dans cet extrait que c'est un film sur la parole. Enfin, il y a quelque chose qui est très important, c'est la parole. C'est un film où finalement l'espace est confiné, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, en réalité, le monde est absent et d'un seul coup, la parole prend une importance d'autant plus grande. Et la spéculation. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les scènes où ils se mettent à dire, alors qu'est-ce que, imaginons que, comme ils ont vu le dernier rivage, imaginons que tout le monde soit mort sur la terre, qu'est-ce qu'on ferait. Il y a un développement de la parole lié à la situation de blocage physique, finalement, oui. Et dans cette communauté. Et du coup, c'est peut-être ton film où il y a le plus de. Enfin, où la fonction de la parole est la plus importante, puisque c'est la façon de s'exprimer, ça ne peut plus être le corps. Il est trop contraint, ça ne peut plus être les situations. Et du coup, ça t'oblige, toi, d'intervenir plus. Oui. Enfin, parce que tu interviens, là, c'était très clair sur l'histoire des lettres et des fragments de lettres. On est dans de la fiction pure, même si c'est des vrais extraits. C'est-à-dire que tu interviens beaucoup plus que tu l'as jamais fait, et y compris sur la dramaturgie. C'est-à-dire que tu t'es trouvé pris là dans une structure qui n'est pas du tout la même que celle que tu avais connue avant, et tu as l'obligation d'intéresser des gens à la télé le soir avec quelque chose où il n'y a pas tellement d'événements que ça finalement qui se passe.
Mais il y aurait pu, et on aurait pu dériver peut-être, mais là j'en ai pas eu la qualité de dériver dans un monde onirique beaucoup plus fort s'il s'agissait de fiction. Et la prédation du réel, et avec des reculs et des retours de l'équipage, un peu comme pour Marcel d'ailleurs, m'ont empêché d'épanouir ce à quoi je tendais. Par contre, je joue avec la matière qui est là un peu. Alors bon, c'est un film de 5 épisodes, 25 minutes chacun, ça fait à peu près 2 heures et des bricoles, tout ça. L'ensemble montre les différentes choses. Là, on est vraiment sur un extrait très particulier sur le temps mort. On est dans le deuxième épisode. C'est la gamme de l'ensemble qui donne la richesse du truc. On l'a projeté là, l'autre fois, j'étais tout content de le revoir. Mais c'est vrai que j'ai un manque, par exemple. Mais en même temps, je me dis, tiens, j'ai maîtrisé certaines choses qui est dans une sorte de dramaturgie plus convenue, si on veut, mais qui n'est pas tant que ça, en fin de compte, au total. J'aurais rêvé faire le film, le réduire à 1h, 1h20, pas jouable. Et je, de temps en temps, malgré ce que peut dire mon épouse, j'aimerais bien retourner là-dedans, mais sans interview, sans rien, et uniquement en contemplation, dans un monde que je rendrais là, sciemment très étrange, parce qu'il est très étrange, dans le silence et dans les choses qui ne sont pas dites. Il y a plein de les discussions qu'ils ont ensemble, là, les officiers. C'est des discussions induites, en fait. Ils savent bien vers où je veux aller. Et puis, ça me manquait. Je crois que c'est dans les derniers jours on a filmé ça. On avait raccourci la mission, qui était pourtant déjà très longue, de 2 ou 3 semaines. De 2 semaines. Ça m'a manqué aussi. Et puis, même, pour trouver mes marques là-dedans, c'est un temps chronobiologique très bizarre, quoi. Et la caméra là-dedans, c'est un peu spécial, quand même. Et puis, le cahier des charges du feuilleton, quoi. C'est pas bien, quoi. Je veux dire, c'est une vraie horreur, ce machin-là.
Alors là, contrairement, même dans la boucane, il y a une figure de femme qui sort. Je veux dire, là, non. C'est-à-dire, on a l'impression que là, tout le monde reste à égalité, puis on a des surprises. De ce coup, il y a un type qui fait la messe,
oui.
Et on se dit, mais c'est un curé, ou il a une dérogation spéciale.
Il est diacre.
Pour faire ça.
Oui, il a une dérogation. Oui,
c'est
oui,
pas un curé.
Non, c'est pas un curé, c'est le second qu'on a vu, qui est venu d'ailleurs à la présentation du film, qu'on a vu là. Mais il y avait des personnages qui commençaient à poindre au début. Et puis il y a un mouvement de recul, à cause d'ailleurs, en partie, et ça c'est intéressant de le dire, de l'émission Striptease. Parce que Striptease, très curieusement, il y a des sujets qu'ils abordent qui sont bien et tout, mais il y a des moments où il y a une espèce de lâcher très neutre par rapport au sujet qui fait que les gens se donnent. Mais on les laisse aussi filer vers des choses ou qui sont spectaculaires, plutôt drôles et relativement sympathiques, mais parfois faire des trucs qui sont assez torves, je trouve. Je me rappelle certaines choses. Eux s'en souviennent. Ça veut dire que le caméraman, à la fin, on nous reprochait à Michael et moi d'être trop sympathiques. Alors je dis, c'est qu'ils vont nous couillonner la gueule après, quoi, au montage. Après, ils ont une autre pression, c'est ce que j'expliquais. Ils savent que les rushs, peut-être, d'ailleurs ça n'a pas été le cas, seront vus par les officiers, ce qui n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Nous, on peut être viré au retour de la mission, ou 3 mois après, on comprendra même pas pourquoi on est viré, parce que le milieu est tellement fragile et tellement sous contrôle que pour une phrase qui sera donnée à côté, ça peut être terrible. Je donnais l'exemple la dernière fois d'un type qui avait dessiné sur un papier comme ça un pauvre réacteur nucléaire. C'était rien, c'était une cuve, un tuyau, 2 tuyaux, puis il y avait marqué cœur nucléaire là, et il paniquait au point de dire, je sais pas s'il faut que vous filmiez ça, c'est peut-être du secret nucléaire. Les gars sont pas non plus tout le monde n'est pas des élites de réflexion là-dedans. Et les gars ont la pression quand même du secret défense, quoi. Et tout peut être susceptible de les faire être virés, quoi. Les discussions qu'ils ont dans les trains peuvent être testées. C'est-à-dire, le gars qui se lâche un peu trop pour raconter des histoires qu'il a vécues dans son sous-marin, il peut être viré, pas du jour au lendemain, mais de la semaine à la semaine suivante, pour avoir trop parlé. Donc des rétractions à nos égards fortes. 2, le phénomène effectivement de la caméra de télévision qui a l'air très sympa, mais à la fin, le montage, les gens ont pris conscience de tout ça. Ils disent, qu'est-ce que vous allez faire de nous? Et j'ai vu, et Michael aussi, de temps en temps, ça nous fatiguait ou ça nous désespérait. Il y a eu des semaines pas marrantes hein, dans tout ce truc-là, où on se dit, bon, mais les gars, ils sont plus avec nous, quoi. Et puis ils revenaient, puis on avait des fidèles, puis on avait eu quelques fidèles ennemis aussi, d'ailleurs. Il y en avait 3 qui s'étaient complètement braqués sur nous, quoi. Pour des raisons totalement animales. Là, on est dans un vivier quand même de 80 personnes, et c'est normal. Mais il faut jouer avec, là, il faut être assez fortiche, quoi.
Mais est-ce que le fait que tu avais l'exigence de la télé, enfin du feuilleton, fait que par moment, tu as, par rapport à tes autres films, tu as un peu gauchi le réel? Je me suis posé la question une fois, par exemple. C'est qu'à un moment donné, tu dis, Bon, il y en a un qui a disparu et il joue un jeu vidéo sur la guerre des sous-marins. Oui. Est-ce que ça... Et après, tu le filmes en train de jouer. Est-ce que ça, c'est de la pure dramaturgie? Ou bien est-ce que tu as filmé ce type qui était en train de jouer à son jeu vidéo et après, tu l'as intégré dans ton montage avec la voix off?
Eh bien, quand je l'ai vu jouer dans la salle des torpilles, je me suis dit, bon, ça va me servir, c'est évident. Quoi. Il est situé en plein dans l'endroit des tubes de lance-torpilles, comme dans les films des années 50. Et il est, après des journées entières de manœuvres avec l'OTAN, on le voit pas là, il est en train de jouer à un jeu vidéo de sous-marin. Je me dis, c'est trop beau, il est 1h du matin, on a tourné avec Mickaël, on s'est fait engueuler par un des gars qui était là parce qu'il avait sommeil, on faisait pas de bruit, rien. La dramaturgie fictionnée, c'est au montage à ce moment-là. C'est que je l'introduis exactement au moment où il faut pour. Mais ça, c'est du classique, bien sûr. Mais quand je l'ai vu faire ça, moi-même, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai, quoi. Il en a eu toute la journée, il continue. Bien.
Alors, il y a autre chose. C'est que, bon, là, évidemment, par rapport à Rouge, c'est intéressant. C'est qu'on a des gens qui, finalement, sont dans une situation de fiction. Mais il n'y a rien. Il se passe... Si, il voit un bateau, il photographie. C'est la plus grande action. C'est-à-dire que du coup, leur place, leur vie n'a rien de réellement... Il n'y a pas d'action de fiction. Et en même temps, obligatoirement, ils vivent leur vie et leur métier
en virtuel.
Avec la fiction dans la tête.
Totalement.
C'est pour ça que quand tu amènes Le Dernier Rivage, c'est génial. Parce qu'ils comparent finalement, la fiction qu'ils ont dans la tête, et puis leur pauvre vie qui n'a aucun élément de fiction.
Exactement. D'ailleurs, la vision qu'ils ont vue du film, certains d'entre eux au début, ils disent, on n'est pas des héros, quoi. Ça n'a pas d'héroïque, il faut de la musique, il faut du... etc. Alors qu'on est plutôt dans le tempo mou, quoi, les choses immobiles. La réalité, on doit traverser, on doit transpercer le fantasme ou la carte postale. Ça coûte très cher en général. Même le public peut très bien vous le reprocher. Mais enfin, c'est pas la vision. Hollywood, pendant 50 ans, qui raconte les sous-marins pièce à pièce comme ça, le pauvre gars arrive avec une caméra dite réelle, et encore là, effectivement, elle fait un effort de dramaturgie assez visible. On n'attendait pas ça. Même moi, d'ailleurs, dans un sens. C'est ce que j'avais dit à l'amiral au début. Je lui ai dit, attendez, je suis pas sûr que ça soit un très bon truc de filmer dans vos sous-marins. On doit s'y emmerder sacrément. En fait, on peut s'y emmerder sacrément. Surtout quand on n'a pas un planning. Eux, ils ont un planning pendant 8 heures. Après, mais moi, j'ai quoi comme planning? Et Mickaël, on est aux aléas de réellement d'un temps immobile. Alors, on a une petite action par-ci, par-là. Il y en a eu d'autres. Mais il y avait des fuites d'eau, etc., etc. Pour suivre ça et le rendre intéressant pour un feuilleton en 4 minutes, ce n'était pas jouable. On est à la merci de tout petits événements, de rien du tout. Je suis ravi, moi, d'avoir l'arbre d'hélice qui tourne avec quelques gouttes qui tombent le long d'un engrenage. Je suis ravi d'avoir une ou deux paroles. À un moment, il y a les sons sonores qui sont transférés en oscilloscope, etc. Là, je trouve ma part de d'onirisme, mais j'aurais voulu un film qui soit beaucoup plus infecté d'onirisme que ça, avec le noir et blanc et tout. J'ai quelques traces, mais c'est l'exercice obligé du feuilleton a été quand même un peu... Ah oui, vraiment dur. Là.
Alors, sur la question du texte, parce que jamais tu as écrit comme ça. C'est-à-dire, là, tu écris, et dans ce texte, tu écris à la fois « je », il y a des moments où c'est toi, et puis il y a des moments où c'est du texte pour expliquer, alors là, pour analyser, pour le spectateur, par exemple, la situation. Là, tu le fais là. C'est-à-dire, est-ce que ça a été pour toi difficile? Est-ce que ça a été une contrainte? Est-ce que tu l'as fait volontiers? Est-ce que ça t'a gêné? Voilà, la question du texte.
On l'a fait à deux. On l'a fait à partir de mes carnets, on l'a fait aussi en fonction de de l'explication. Il y a un côté science et avenir, junior. Et des bouts de Tarkovsky. Et c'est une espèce de monstre, ce machin-là. Mais il s'agit de rendre intéressant aux gens et qu'ils puissent suivre. Ou bien on dérapait, on faisait cinq parties de feuilleton totalement onirique et tout. Je ne suis pas de cette école-là. Je suis quand même quelqu'un qui décrit les choses et je trouve ça important. Mais c'est vrai, mais j'aimerais bien qu'il y ait deux ou trois épisodes de plus, quoi. Où là, je peux dériver. D'ailleurs, moi, personnellement, je revendique le dernier épisode, l'avant-dernier aussi, puis des bouts par-ci, par les autres. L'ensemble, je le revendique. L'ayant vu, je me dis, bon, ça va, ça tient. C'est plutôt pas mal, j'avais jamais fait. Mais c'est un étrange truc, quoi. Mais c'est quand même très profondément la réalité, quoi. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la traversée du fantasme, quoi.
Juste, je veux dire quelque chose sur Arte. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a vu là, tu pourrais le faire. Il y avait quand même Garrel.
Oui.
Il y avait quand même, on laissait un peu la liberté aux cinéastes. Ouais. Je suis vraiment, je suis sûr que Marcel, tu ne l'aurais pas fait.
Oui,
Arte aujourd'hui.
Oui, oui, dans le fond,
hein. Jean-Jacques, on t'aurait demandé que ce soit plus rigolo. Ouais. voilà. Et moi, je veux dire que heureusement qu'il y a eu, tu es arrivé au. Enfin, tu as tourné ces films à un moment où, à Arte, les cinéastes étaient encore un peu libres.
Ben, nous autres, que ce soit photographe ou cinéaste, c'est toujours ça. Parce que, regarde, du côté de l'armée, c'est la même chose. Je suis arrivé à un moment, là, tout de suite, je ne suis pas sûr que ce soit possible. D'ailleurs, l'officier qui était là disait, ta demande que tu es en train de faire, je lui faisais indirectement, d'ailleurs, j'étais en train d'introduire le fait de retourner dans les sous-marins. Il a dit, ben, le corps collectif, genre, il va te dire non. Parce que ce n'est pas notre intérêt du tout que tu retournes comme ça, là. Actuellement.
Je crois que Yann voulait dire quelque chose.
Sur le corsaire, parce que tu l'as fait avant sur les carnets de prison. Les carnets et la prison, c'est la même réalité, c'est quelque chose qui, à des moments, qui t'échappait.
Et c'est un univers carcéral comme le sous-marin est un univers aussi. Concentrationnaire, enfin carcéral, et donc le carnet te permet dans les deux cas de retrouver un fil sur lequel te construire, construire le film, construire le reportage photo, et en même temps de diagnostiquer tous les points d'errance que pose cette réalité, parce que c'est un univers où tu n'as pas de place, parce que c'est un univers qui est interdit dans les deux cas, alors que les autres films, les autres réalités, les autres mondes que tu as filmés ne sont pas les mêmes à cet égard. C'est très curieux que
pour les prisons.
Tu retrouves entre les prisons et les sous-marins, il y a comme une boucle qui se ferme.
Oui, exactement. Ça, c'est bien vu, je n'y ai pas songé, mais c'est vrai. Parce que les prisons, tu as les mêmes handicaps. C'était un prototype là aussi. C'était la première fois que quelqu'un rentrait dans les prisons pendant un an. Hein.
Sauf que, bon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Yann Lardon, c'est lui qui a écrit le texte du livre sur les prisons de Jean Romy dans la collection Écrit sur l'image de l'époque. Et, sauf que dans la prison, ce que Jean a fait un choix bizarre, c'est de filmer les corps en expansion, les corps qui.
Parce que c'était la seule chose qui pouvait apparaître.
Voilà, tandis que là, les corps, tu vois, quand tu les filmes, ils sont
dans cet extrait. Mais il y a des moments où ça s'installe autrement.
Il n'y a pas le côté solaire des corps que tu as filmé toi en prison, quoi, qui est un peu le contraire de ça.
Non, et pour revenir sur l'écriture, on est en train de. Non, mais nous, on est bon là. On a pris 6 minutes. non, pour finir sur cette histoire, il y a une autre écriture qui était, on a choisi la chronologie. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir une équipe formidable autour de moi avec Françoise, Marie, les deux ingénieurs du son, toute la petite équipe. Là, on retrouvait une communauté qui se disait, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une matière et tout. Et on a vraiment travaillé pour se dire comment faire les choses, quoi. Et l'armée, elle, de son côté, n'ont pas s'inquiété, mais il y a une messe, enfin, il y a des passages dans ce film-là qui les a complètement troublés et emmerdés, quoi. Avec la messe qui est donnée en plein milieu de l'armement, avec le fait qu'il y a un rapport évident entre chrétienté et islam. T'as une arme de guerre qui se balade dessous, un gars fait une messe avec don d'Eucharistie, tu y crois pas, quoi. Boviala était là, enfin, il y en a plusieurs, tu te dis, c'est quoi ça Et là, ça touche réellement les enjeux actuels là, de ce qui se passe, sur notre planète. Quoi. Et la façon de filmer, effectivement, tu fais qu'une partie de ping-pong avec ce que te propose le réel. Si dans les prisons, lorsque 30 ans auparavant ou 20 ans, dans les prisons, c'était offert autre chose, on les déclenche un peu. Mais il y a aussi le réel qui se. C'est une étrange partie, quoi. Entre ce qui est susceptible d'être pris, d'être capté, qu'est-ce qui s'offre à toi? Tu ne prends pas des photos, je répète à nouveau, tu as la possibilité d'être prêt à les recevoir. Ce n'est pas prendre les photos, c'est les recevoir. C'est recevoir les plans films que tu peux accepter, comme la petite fille qui apparaît dans la boucane. À ce moment-là, il faut être prêt à recevoir et sentir que le réel vous offre quelque chose. Il ne s'agit pas de prendre comme un poisson. À la limite, je veux revenir sur l'histoire de pêche, parce qu'il y a mon copain Nicolas qui est là. C'est ce jour-là, cet instant-là, entre l'interface d'une mouche qui flotte à la surface du flot et dessous, il y a une espèce de miracle qui se passe. Il faut que ton corps et le corps aussi de la capture soient prêts et paf, ça fait connexion. Ça a une espèce de merveilleuse synchronisation qui s'opère et qui est travaillée par des tas de choses dans l'inconscient, même dans la bête.
Dans le passé,
Tout. C'est hallucinant pour ça. Parce que là-dedans, il y a des choses bizarres qui se passent. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais par exemple, il y a une musique qui se passe dans... Je fais une espèce de tour dedans. Il y a une musique qui passe à la radio au même moment, qui est la même musique que dans Jean-Jacques, dans le marché aux bestiaux. Quand je tournais, je me dis, mais c'est pas vrai. Je comate, là. C'est moi qui déconne complètement, quoi. Je suis tellement dans mon truc égotique, là, que... Non, c'était là. Alors, c'est mes petits rapports à moi qui se font. Mais tout ça infecte lentement les fictions, le réel, le truc. Ça fait... Tout d'un coup, la planète devient bizarre, quoi.
Voilà. Bon, on finit sur la métaphore de la pêche. Alors.
Ben oui. Oui, justement, que tu as utilisé ailleurs, j'ai appris.
Très bien. Je crois qu'il faut s'arrêter.